Bonjour Monseigneur.
Bonjour Laurence.
Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'Esprit-Saint, puisque l'Église fête la Pentecôte, la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres, sur Marie, réunis au Cénacle et sur le monde. D'ailleurs, c'est la devise que vous avez choisie, « Marchons sous la conduite de l'Esprit-Saint ». Pourquoi cette devise ?
Il faut dire que les évêques choisissent une devise. Alors elle peut être tirée de l'Écriture ou pas. Moi, j'ai choisi cette phrase de l'Épître aux Galates, au chapitre 5. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il me semble que, évidemment, un évêque, il est ordonné pour prêcher et puis pour conduire le peuple de Dieu, mais il ne conduit pas le peuple en son nom propre. Il est un pasteur, il est avec le troupeau, mais il se laisse conduire par l'Esprit-Saint. L'idée, vous voyez, c'est vraiment c'est toute l'Église hein, qui est habitée par l'Esprit-Saint et qui marche dans la lumière de l'Esprit-Saint vers le Père. Et c'est comme si je faisais un petit pas de côté pour dire, attention, je suis votre évêque, d'accord, mais en fait, c'est l'Esprit-Saint qui conduit l'Église, et nous essayons de nous mettre sous la conduite de l'Esprit-Saint. D'ailleurs, je vous fais remarquer quelque chose, c'est que quand le prêtre ou l'évêque dit « Le Seigneur soit avec vous », eh bien, les gens répondent, les fidèles répondent
«
Et avec votre esprit », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, vous qui êtes notre pasteur, ce que nous souhaitons, c'est que votre esprit, qui est la partie de vous-même, qui est vraiment toute ouverte à Dieu, toute tendue vers Dieu, elle soit vraiment habitée par l'Esprit-Saint. De sorte qu'on ne vous demande pas de nous donner vos opinions sur la foi catholique ou, disons, ce que vous pensez. On vous demande de nous dire ce que dit l'Église et comment est-ce que l'Église médite la parole de Dieu. Et on aimerait que vous, qui êtes notre évêque ou notre curé, eh bien, vous vous mettiez vraiment sous la conduite de l'Esprit-Saint pour nous envoyer là où l'Esprit-Saint nous appelle. Et pas simplement en fonction de vos propres idées sur ce qu'il faut faire dans l'Église. Mmh. Et donc, vous voyez, c'est une sorte de pas de côté que je fais avec ma devise, en disant qu'à la fois je suis évêque et à la fois je suis évidemment sous la conduite du Seigneur.
D'ailleurs, c'est un petit peu le logo du diocèse aussi. On a une colombe qui descend sur le diocèse.
C'est ça.
C'est un choix aussi de marquer en fait cette Pentecôte sur l'Église, sur le monde.
C'est ça, exactement. Et vous voyez, la question de la synodalité dont on a beaucoup parlé, si l'Église est synodale, c'est d'abord... Alors, elle n'est pas que synodale, mais en tout cas, la synodalité, c'est l'idée qu'on se met tous sous la lumière de l'Esprit-Saint, dans le conseil de l'Esprit-Saint, dans le discernement opéré par l'Esprit-Saint, justement pour pas que nous allions simplement là où nos idées nous portent, mais que nous soyons à l'écoute de ce que l'Esprit dit aux Églises, comme dans l'Apocalypse.
D'ailleurs, quand il y a eu l'élection du pape Léon XIV, les évêques, les archevêques se mettent en prière aussi. Toute l'Église se met en prière sous la conduite de l'Esprit-Saint pour recevoir finalement la parole de Dieu. Il y a vraiment aussi, on demande à l'Esprit-Saint de nous éclairer dans nos choix, dans nos décisions.
Et c'est
aussi ce que vous faites vous aussi en tant qu'évêque dans les décisions que vous prenez sur le diocèse.
Mais en tout cas, on essaie de discerner en invoquant l'Esprit-Saint, oui, et puis de prendre le temps de comprendre ce que l'Esprit-Saint nous dit, parce que évidemment... Vous voyez, il ne nous apparaît pas ou il ne nous dit pas par un petit texto ce qu'il faut faire. Voilà, et donc,
Serait très pratique.
Ce qui serait pratique, mais ce qui ne correspond pas aux vues de Dieu sur nous. Sinon, il n'y aurait plus de la liberté humaine. Donc, on a vraiment à invoquer l'Esprit-Saint et puis à essayer de comprendre comment l'Esprit-Saint nous guide à travers, disons, les petits critères de discernement que nous avons. Voilà pourquoi on invoque... L'Esprit-Saint comme conseil, c'est un don qui nous est donné, le don de l'Esprit-Saint.
L'Esprit-Saint, qui est-il ? Parce que autant le Père, le Fils, j'ai envie de dire, c'est plus facile à comprendre. L'Esprit-Saint, alors parfois il est représenté par une colombe, un souffle, un feu, c'est la troisième personne de la Trinité. Il est invisible. Qui est-il ? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur l'Esprit-Saint pour le découvrir davantage ?
Vous avez raison, Dieu le Père, on lui attribue en propre la création, même si c'est la Trinité qui crée. Mais on dit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, donc le Père il est vraiment l'origine, Dieu le Père est vraiment à l'origine, et donc on lui attribue justement en propre, de manière toute particulière, la création. Et puis alors on voit Dieu le Père dans tout l'Ancien Testament, qui agit, qui est là présent, donc on se le représente d'une manière ou d'une autre. Jésus, on le voit sur les routes de Palestine, on le voit à la crèche de Bethléem, on le voit dans sa passion, on le voit dans sa résurrection. Donc, il a pris un corps de chair. Donc,
il est très incarné. Proche de nous.
Ouais. Voilà. L'Esprit-Saint, c'est plus compliqué. Donc, c'est vraiment d'abord la troisième personne de la Trinité, comme vous l'avez dit. On a mis du temps à arriver à bien confesser explicitement la divinité du Saint-Esprit. Ça a été vraiment l'objet du concile de Constantinople, qui a complété le concile de Nicée au IVe siècle. Parce que le concile de Nicée, il dit, voilà, le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Mais il ne s'engage pas trop sur l'Esprit Saint. Il faudra encore quelques années pour affirmer la divinité du Saint-Esprit, qui est révélée dans les évangiles. Mais voilà, il fallait le proclamer de manière assez claire. Bon, ensuite, évidemment, comme l'Esprit Saint ne s'est pas incarné comme Jésus, on va se le représenter à travers ses effets. Et donc, déjà, c'est vrai que sur Jésus, il arrive comme une colombe, nous dit l'Évangile, au moment du baptême. Et donc, on se dit, tiens, colombe, c'est l'Esprit Saint. Et puis, c'est aussi un souffle. Le souffle de Dieu, vous voyez, qui insuffle la vie à l'homme au moment de la création. Jésus, on le lit dans l'Évangile de la Pentecôte de cette année, il souffle sur ses apôtres pour qu'ils soient ministres du pardon des péchés. Donc on dit, voilà, c'est un souffle, c'est aussi un vent, parce que Jésus dit à Nicodème, l'Esprit souffle où il veut, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Donc c'est un vent, c'est le souffle d'une brise légère. Voilà, ça peut être un feu, parce que c'est l'amour du Père et du Fils. Le Saint-Esprit, c'est vraiment le fruit de l'amour du Père et du Fils, qui est cette personne de la Trinité. Et le feu représente bien ce que c'est que cet amour, cet embrasement.
Et à la Pentecôte, c'est des langues de feu.
Et ce sont des langues de feu. Voilà. Il y a aussi l'eau. L'eau qui jaillit du cœur de Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Ça, c'est Jésus qui dit ça en parlant du Saint-Esprit dans l'évangile de saint Jean. Donc, il y a toutes ces images qui représentent les effets du Saint-Esprit, qui sont nombreux, évidemment, parce qu'il est Seigneur et il donne la vie, il fait vivre l'Église. Et puis, il y a l'huile, parce que l'onction, au moment de la confirmation, on reçoit cette onction d'huile, l'huile de l'Esprit-Saint. Alors, il fait deux choses. Sous l'Antiquité, l'huile est utilisée pour avoir la lumière. C'est ce qu'on met dans les petits réservoirs, des lampes pour avoir de la lumière.
Des vierges sages et des vierges folles qui n'avaient pas leur lampe allumée.
Voilà, exactement. Ouais. Et donc, l'huile représente la lumière. L'huile pénètre, quand vous mettez de l'huile sur un vêtement, on ne peut pas le retirer. Donc, ça veut dire qu'il pénètre en profondeur. Donc, quand on est marqué du sceau de l'Esprit-Saint, on est marqué pour toujours. Personne ne peut nous le retirer. Et puis, dans l'huile, il y a aussi, vous savez, c'est utilisé par les sportifs. Et en particulier, dans l'Antiquité, on s'enduisait le corps d'huile pour échapper à son ennemi, si je puis dire,
parce que ça glisse. Parce qu'on glisse.
Oui. Mais surtout pour réchauffer les muscles. Hein. Oui, et donc, ça donnait aux sportifs, vous voyez, une sorte de souplesse. Alors, il était réchauffé, mais ça lui donne aussi une sorte de souplesse. Mmh. Voilà. Et donc, vous voyez, tous ces signes disent quelque chose des effets de l'Esprit-Saint dans notre vie chrétienne.
Alors, on parle aussi des 7 dons de l'Esprit-Saint, des 9 fruits de l'Esprit-Saint. Alors, vous allez nous en parler. Alors, les 7 dons, il y a la sagesse, l'intelligence, la force, la science, le conseil, la piété, la crainte. Et puis, dans les fruits, on va dire c'est un peu les conséquences. Hein. On juge un arbre à son fruit. Donc, les fruits, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
Oui, alors ça, c'est l'Écriture, hein, tout simplement. Les dons du Saint-Esprit, c'est dans Isaïe 11, au début du chapitre 11 d'Isaïe, où on parle du Messie à venir, et on dit « Sur lui reposeront ces fruits que vous avez cités, la piété et la crainte, qui n'est pas du tout une peur de Dieu, la crainte, le don de crainte, c'est un don qui est extrêmement important dans l'Ancien Testament, parce que c'est simplement... Alors, ce n'est pas une peur de Dieu, parce que, évidemment, l'Esprit Saint ne fait pas naître une peur de Dieu dans les cœurs. Ce serait vraiment contradictoire dans les termes. La crainte, c'est simplement de reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est Dieu et que nous ne sommes pas Dieu.
C'est un peu du respect, ce serait respect devant sa grandeur.
Devant sa grandeur, et figurez-vous que le don de crainte, il nous rappelle à la fois que Dieu est Dieu, que nous ne sommes pas Dieu. Mmh. Oui, on se positionne déjà vis-à-vis de Dieu, dans une position en fait d'action de grâce pour que ce que nous recevons de lui, et en particulier la vie. Vous voyez, ça nous porte à l'adoration aussi. Hein. Dieu est celui qui nous a créés, Dieu est celui qui nous a sauvés. Ça nous repositionne face à toutes les formes d'idolâtrie, c'est-à-dire prendre le créé pour le divin. Ouais. Le don de crainte, il nous permet de dire, ça c'est une créature, et donc c'est pas l'absolu. Il n'y a que Dieu qui est absolu. Donc, vous voyez, tout ce qu'on peut idolâtrer, en argent, en pouvoir, en personnes qui nous entourent, etc., on a cette tentation d'idolâtrer. Le don de crainte nous préserve de cela et nous remet dans une position juste vis-à-vis de Dieu. Et le don de piété, il est aussi extrêmement important parce que non seulement nous avons été... Enfin, Dieu est notre créateur, mais Dieu est notre Père. Et la piété, c'est de nous reconnaître fils devant Dieu. Et donc, la piété nous fait nous positionner filialement devant Dieu qui est Père, et donc prendre du temps aussi pour dialoguer avec lui dans la prière. Mais le don de piété, ça ne consiste pas seulement à prier Dieu, ça consiste aussi à s'occuper de nos frères, parce que si on est fils de Dieu, si on est fils du Père, alors vous êtes ma sœur, et tous ceux qui nous entourent sont des frères et sœurs pour moi, et donc je les traite comme des frères et sœurs. Et donc le don de piété, ça n'est pas seulement une attitude juste vis-à-vis de Dieu, c'est une attitude juste vis-à-vis de nos frères et sœurs. Les regarder comme ça, dans un regard de piété filiale.
Parce que justement, naturellement, on se dit pieux, être le religieux, être plutôt dans la prière, plutôt comme ça. Mais en fait, il y a aussi un débordement aussi avec les frères et sœurs.
Il y a toujours un débordement, parce que celui qui connaît Dieu, vous voyez, et celui qui aime Dieu, il est qu'il aime aussi son frère. C'est toujours très lié. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est un trait de la piété populaire, d'avoir toujours un aspect de charité pour le prochain. Regardez par exemple à Lourdes, un exemple tout simple. À Lourdes,
d'accompagner les malades.
Et on accompagne les malades. C'est une vie liturgique à Lourdes. On vit dans la liturgie, dans les processions, dans les messes, dans la confession. Mais on s'occupe des malades et les malades sont au premier rang. Et donc là, c'est un très bel exemple, vous voyez, d'une piété populaire, en fait, dans son entièreté, si je puis dire, dans sa totalité, qui a du sens parce qu'au fond, on se penche sur le frère aussi. Et on pourrait continuer comme ça, les dons de conseils. De science. Alors moi, il y a un don dont j'aime beaucoup parler aux jeunes, quand je les confirme, c'est le don de connaissance ou de science. Je préfère un petit peu le mot connaissance, parce que ça n'est pas la connaissance des mathématiques ou de l'anglais ou de l'histoire, c'est la connaissance de soi-même dans le regard de Dieu. Le don de connaissance, il nous fait nous regarder l'enseigneur avec la mission particulière qui nous a été donnée. Au fond, nous n'avons pas été créés comme des exemplaires d'un même produit manufacturé, comme des chaises ou des assiettes qu'on achète chez le marchand. Mais nous avons été créés uniques et chacun, nous avons une vocation propre. Et la connaissance et la grâce de pouvoir regarder à partir de ses charismes personnels, à partir de ses talents, à partir des richesses de soi-même, d'entrer dans le regard de Dieu sur nous. Et vous voyez, ça stimule notre espérance. Il y a beaucoup de jeunes qui, quand ils sont confirmés, ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire plus tard. Bon, ça, ce qui peut être tout à fait normal. Mais souvent, il y en a qui ont une piètre estime d'eux-mêmes, parce qu'ils pensent qu'ils ne réussissent pas, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les mêmes talents que les autres, parce qu'ils se comparent beaucoup. Et je trouve que réfléchir sur le don de connaissance et se dire, au fond, peu importe ce que l'autre a et que je n'ai pas, moi, qu'est-ce que j'ai ? Et c'est l'Esprit-Saint qui fait découvrir la merveille que je suis aux yeux de Dieu et toutes les richesses que je porte en moi-même. Voilà. Alors, tous les dons du Saint-Esprit, ils sont extraordinaires parce qu'ils nous font découvrir un aspect de notre relation avec le Seigneur.
C'est très beau ce que vous dites, notamment sur les jeunes et ce don de connaissance. J'ai des ados, alors on peut en parler, puisque justement, quand vous les voyez aussi à la sortie des lycées, des écoles, ils sont un peu habillés tous pareils. Et justement, souvent, avec l'effet des réseaux sociaux, ils parlent de la même manière, ils s'habillent de la même manière. Et donc, justement, je pense que ce don de connaissance, il est tout à fait d'actualité, où la plupart des jeunes ont peu confiance en eux ou ne se connaissent pas. Et il y a une espèce d'uniformité. Et je pense qu'effectivement, l'Esprit-Saint peut leur révéler leur qualité, la richesse qu'ils ont en eux et que finalement, ils sont une pièce unique.
Oui, parce que c'est tout ça, c'est un passage de la vie de l'adolescent, c'est qu'au fond, il faut qu'on sorte de la maison. Et pour que je sorte de la maison, et que parce qu'on sent bien que je ne vais pas être avec papa et maman toute la vie, il va falloir que je trouve ma place dans le monde. Et donc, ce qui est très rassurant, parce que en fait, c'est angoissant de sortir de la maison. Même si, par ailleurs, on dit à ses parents que c'est les derniers des derniers, ça peut arriver. Mais au fond, ça fait peur de sortir. Et donc, il faut qu'on trouve un groupe où on est bien et où on est accepté. Et pour se faire accepter, il faut qu'on parle pareil, il faut qu'on soit habillé pareil. C'est très difficile d'avoir une vraie personnalité quand on a 14-15 ans. Donc il y a un passage où il vaut mieux avoir le jean déchiré comme tous les copains, ou un pantalon large comme toutes les copines. Ça nous rassure, ça nous fait entrer dans un groupe, ça nous fait comprendre qu'au fond, en dehors de la maison, on peut être accepté et qu'on va trouver une place. Puis peu à peu, alors, la personnalité s'affirme. on va aller au lycée, on va faire des études, on va trouver un métier et on va trouver sa propre identité. Mais au départ, il faut s'identifier à d'autres et en particulier au groupe d'ados, c'est comme une zone tampon, si vous voulez, entre la maison et puis la vie dans le monde. Et voilà pourquoi je pense que la confirmation à cet âge-là, c'est faire réfléchir les jeunes sur le fait qu'ils ont une vocation unique et qu'ils ne sont pas là aussi obligés de faire comme tout le monde. Vous remarquerez, par exemple, que le don de conseil, c'est un don qui nous aide à comprendre aussi, dans les choix que nous avons à faire, de les faire sous la conduite, dans la lumière du Saint-Esprit. Le don de force aussi, je le dis souvent aux jeunes, nous aide à savoir nous positionner personnellement, même si c'est en contradiction avec le courant majoritaire. Et parfois, il faut avoir la force. Et la force de l'Esprit-Saint, c'est parfois de savoir dire non. Eh bien, tout le monde boit de l'alcool en soirée jusqu'à plus soif. Ben moi, je dis non à cela, par exemple. Ou bien, beaucoup trichent pour avoir des certificats, je ne sais pas, médicaux, pour entrer dans une école. Ben, moi, non, je vais aller voir le médecin. Je ne vais pas trouver un certificat médical sur Internet. Voilà, parfois, il faut de la force. Parce que ce n'est pas parce que tout le monde dit qu'on peut faire ça que c'est bien de le faire.
Et puis je pense qu'être chrétien aujourd'hui, c'est quand même être parfois à contre-courant et avoir le courage aussi de professer sa foi au Christ, d'apporter une parole aussi peut-être différente, comme vous dites, dans un courant où le monde est quand même aussi beaucoup tourné vers l'argent, l'appât du gain, etc. Et l'Église propose aussi autre chose, et le message du Christ et de l'Esprit-Saint, c'est un autre message. On a vu d'amour, de paix, de confiance, de bonté. L'Esprit-Saint souffle dans le monde, en France, il y a une recrudescence aussi des demandes de baptême, de confirmation. Dimanche dernier, vous avez confirmé plus de 200 adultes à la cathédrale de Nîmes. C'est un fruit de l'Esprit-Saint.
Ben oui, l'Esprit-Saint travaille. Ce que je trouve très très beau, c'est que on se rend compte que ceux qui demandent le baptême ou la confirmation, ils viennent pas là parce que ils ont été dans une de nos organisations, dans un projet missionnaire, mais parce qu'ils ont été touchés par le Seigneur dans leur vie quotidienne. On peut pas dire que ça soit un fruit de notre activisme pastoral. C'est bien qu'on le fasse, ou de notre activisme missionnaire. C'est bien qu'on le fasse, c'est normal. Mais les conversions au Christ, elles viennent pas tellement de là. Elles viennent d'une rencontre, elles viennent tout simplement de la conscience qu'on a prise, que le Seigneur était là. Et puis il y a eu un témoin de Jésus qui passait par là, si je puis dire, et puis qui a permis à la personne de mettre des mots sur sa foi en Dieu. Donc, l'Esprit-Saint souffle et il nous donne une bonne leçon de liberté. Quand Jésus dit à Nicodème, l'Esprit-Saint, tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Eh bien, c'est exactement notre position. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a un tas de gens qui se convertissent au Christ, y compris les adolescents. On a baptisé 90 adolescents. Et on ne sait pas très bien où ils nous mènent, parce que parfois, on est dépassé par cette situation. On espère que tous ces baptisés resteront dans nos communautés, mais on ne peut pas les retenir. Et donc, qu'est-ce qu'on a à leur proposer? Qu'est-ce que va devenir l'Église avec tous ces néophytes, donc ces nouveaux baptisés, ces nouveaux confirmés? Est-ce qu'on sait leur laisser de la place et quelle place ils vont prendre? Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont devant nous et pour lesquelles on prie l'Esprit-Saint, justement, de se laisser enrichir de la présence des néophytes.
Alors, pour terminer cette émission, en ces jours de Pentecôte 2026, quel serait votre message, quel serait votre souhait ou quelle serait votre prière à l'Esprit-Saint pour notre diocèse?
Moi, je dirais tout de suite, justement, laissez-vous conduire par l'Esprit-Saint. C'est-à-dire, ouvrez grand vos cœurs à ce que l'Esprit peut faire en vous. Ça a été, vous savez, une marque très forte du pontificat du pape François, de dire attention à une forme d'activisme chrétien. Où on a des projets, on monte des affaires, et moi je suis le premier à le faire. Mais souvent, on veut faire des choses pour s'activer dans l'Église, mais il n'y a pas le passage par l'Esprit-Saint pour discerner. Et c'est vrai aussi dans nos vies. Par exemple, vous voyez, il y a des gens qui disent « moi j'ai du mal à prier ». Moi je leur réponds « est-ce que vous avez demandé à l'Esprit-Saint de vous guider dans votre prière ?» Et donc je trouve qu'on devrait avoir le réflexe, par exemple, aussi dans une réunion, tout simplement, même une réunion professionnelle, d'invoquer l'Esprit-Saint. Dans un dîner en famille, pourquoi ne pas invoquer l'Esprit-Saint? Dans une rencontre avec quelqu'un, dans une discussion qui est difficile, dans la perspective d'un coup de téléphone qui ne va pas être simple, est-ce qu'on prie l'Esprit-Saint? Et donc moi, j'ai envie de dire ça, laissez-vous conduire par l'Esprit, invoquez-le, mendiez-le, comme des mendiants de l'Esprit-Saint, pour que vraiment, il fasse en nous toute chose nouvelle.
sachant que c'est la promesse du Seigneur aussi, c'est que si on demande l'Esprit Saint, il nous le donnera.
Oui.
Il s'est engagé.
Oui, oui.
Donc, demandez l'Esprit Saint, vous recevrez. Donc.
C'est-à-dire que l'Esprit Saint, il nous est donné. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint, comme dit Saint Paul. Donc, nous sommes comme un sanctuaire de l'Esprit Saint. Il vit en nous. La question, c'est de savoir s'il a la place pour parler ou pas.
Merci, Monseigneur.
Eh bien, bonne fête de Pentecôte, bonne fête de l'Esprit Saint.
Merci.